C'est une explosion hein, médiatique qu'on a connue depuis 1990. C'est bien pour l'exercice de la liberté de la presse, mais je pense qu'il y a encore un problème dans l'expression pluraliste, dans la mesure où la plupart des chaînes de radio et des télévisions du Congo appartiennent à des personnalités politiques. Et donc, ça pose un certain problème de l'indépendance même de journalistes. Ça, c'est du point de vue éditorial. Mais du point de vue économique, il y a également des problèmes dans la mesure où le travail du journaliste n'est pas protégé. Et donc, un journaliste peut perdre son travail comme ça, du jour au lendemain, par un saut d'humeur du propriétaire. Il dit, bon, là, c'est terminé, et puis vous êtes à la porte, c'est fini. Et ça pose encore une fois de plus un problème sur l'indépendance du journaliste. On a un problème juridique dans la mesure où, quand une tierce personne s'est plaint d'une diffamation, amène un journaliste devant la justice, et fatalement, c'est la prison. Et ça pose un problème dans l'exercice de la liberté de la presse.
Pour revenir au premier point que vous avez évoqué, à savoir l'indépendance éditoriale, avec le problème que pose le fait d'avoir des politiciens qui sont propriétaires de journaux, est-ce qu'au moins on a la représentation de diverses partis politiques? Est-ce que c'est varié?
Vous savez, chez nous, on dit derrière chaque homme, chaque ministre, il y a un journal, il y a une télévision, il y a une radio. Et donc, on peut dire que c'est varié. Et donc, de ces faits, on peut considérer que le pluralisme est assuré. Mais quand on regarde le contenu, en fait, ces médias travaillent pour faire la propagande des propriétaires. Et donc, ça pose un problème, justement, par rapport à la ligne éditoriale. Pour la chaîne publique, par exemple, qui est totalement contrôlée par le gouvernement. D'autre part, dans ces médias, c'est vrai qu'ils sont peut-être ouverts à d'autres expressions d'opinion, mais il n'existait pas encore tout à fait une expression pluraliste dans les médias congolais du fait, justement, de l'appartenance de la majorité des médias à des personnalités politiques. Et chaque média prêche pour sa chapelle et donc fait la propagande du propriétaire de l'organe.
Vous parliez de la diffamation il y a quelques minutes. Est-ce qu'il y a, comme en France par exemple, une chambre correctionnelle qui est adaptée aux journalistes, où le journaliste peut dire qu'il défend sa source?
Non, ça n'existe pas pour le moment. Justement, c'est pourquoi on est dans cette démarche de plaidoyer, des lobbying pour obtenir la dépénalisation des délits de presse. Peu importe la véracité de l'information donnée par le journaliste, dès lors qu'une tierce personne estime que son honneur a été bafoué, le juge va condamner le journaliste. Mais dans la loi qui garantit l'exercice de la liberté de la presse, qu'on définisse clairement ce qu'on entend par délit de presse, alors en ce moment-là, ça permettra peut-être d'avoir une chambre correctionnelle qui permet aux journalistes de défendre ses sources d'information et de dire « moi, c'est une information » que j'ai vérifié et qui repose sur des faits réels et dont je peux apporter les preuves. Et donc, vous n'avez pas de raison de me condamner et d'estimer que j'ai bafoué l'honneur de telle ou telle personne parce que j'ai publié cette information.
Et on imagine la manipulation politique quand on
Absolument.
Sait que chaque parti a un journal, il n'y a pas de limite.
Les journalistes se sont manipulés par les propriétaires de ces médias. Quand un propriétaire veut régler le compte d'un adversaire politique, il utilise son journal ou sa chaîne de télévision ou sa radio et ça pose effectivement un problème pour le respect des règles de déontologie et d'éthique professionnelle des journalistes. La clause de conscience dans notre pays, elle ne joue pas.
Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté a laissé des plumes. Journaliste incarcéré.
Est-ce qu'il y a quand même une valeur refuge des journaux peut-être qui seraient indépendants, plus petits, mais qui sont quand même lus, que les gens lisent justement parce qu'ils sont le garant d'une liberté totale d'expression?
Bon, il y a la radio onusienne, la radio Okapi, qui justement est l'exemple de l'indépendance. C'est vrai que dans la presse écrite, il y a un ou deux journaux qui ont fait un effort d'une structuration qui répond aux normes d'une entreprise, qui essaye d'avoir une certaine indépendance dans la ligne éditoriale, mais il existe très peu. Parce que la plupart de ces médias sont dans une situation économique assez faible et dans l'environnement économique général, le marché marché de la publicité, il est vraiment très réduit. Et donc, tous ces organes sont obligés de se partager ce petit marché de la publicité. Et donc, ça pose un problème de rentabilité, de ressources financières de tous ces journaux et qui ne permettent pas justement de diversifier les sources de financement pour garantir l'indépendance des médias.
Alors, on imagine que les journalistes ont quand même besoin de vivre, de manger, de se nourrir et que du coup, ils ne peuvent pas saper leur propre emploi en dénonçant le manque de liberté. Mais est-ce qu'il y a quand même une marge de manœuvre? Est-ce qu'il y a des syndicats qui parleraient au nom de tous et qui pourraient protéger les individus?
Non, les syndicats d'entreprise n'existent pas encore tout à fait. Peut-être dans les médias publics, oui, mais dans les médias privés, il n'existe pas des syndicats qui parlent et qui défendent les intérêts des journalistes au sein de leur entreprise. C'est vrai que l'Union nationale de la presse du Congo, en tant qu'organisation professionnelle, essaye de parler de tous ces problèmes qui se posent dans le travail des journalistes pour améliorer les conditions de vie et surtout faire respecter quand même le code du travail qui recommande que vous signiez un contrat de travail, que vous rémunériez les personnes employées, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des entreprises de presse. Là, nous avons négocié une convention collective nationale des professionnels de la presse avec le patronat, aussi bien de l'audiovisuel que de la presse écrite. Mais pour le moment, on est dans un travail de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour pouvoir signer cette convention de manière à ce que ce soit un instrument qui complète le code du travail dans notre pays et qui permette aux journalistes de s'organiser en syndicat au sein de leurs entreprises. Je pense que ça sera un pas qui pourrait faire avancer la question ou le problème des conditions sociales des journalistes au sein des entreprises des presse dans notre pays.
Mais comment convaincre des politiques qui n'ont aucun intérêt à faire ça?
Moi, c'est ce que j'ai dit, que nous avons intérêt à faire notre travail de manière professionnelle, en respectant le code de déontologie et d'éthique professionnelle, parce que alors, en ce moment-là, on va convaincre le pouvoir public que nous sommes capables de préserver la discipline au sein de la profession et de ne pas abuser du pouvoir que nous avons pour faire n'importe quoi. Que justement, c'est la question que l'on nous pose tout le temps, c'est vrai, bon, on va dépénaliser, mais alors là, ça sera le champ libre pour vous, les journalistes, de dire n'importe quoi et de raconter n'importe quoi. Et donc, c'est nous, journalistes, qui, dans notre travail au quotidien, nous devons démontrer, faire un travail professionnel qui recommande de vérifier une information et de la confronter à plusieurs sources d'informations. Mais si, comme malheureusement, ça arrive souvent, on publie n'importe quoi, des rumeurs qu'on entend dans la rue, et ça ne facilite pas le travail de lobbying que nous faisons justement pour arriver à obtenir la dépénalisation des délits de presse.